Merci d'écouter France Inter. Vous l'entendez, il est pile 13h. Le journal, Frédéric Barrère. Bonjour Frédéric.
Bonjour Ali Badou, bonjour à tous. Une faillite de la politique de la France au Rwanda. Le rapport d'historien remis hier au président Macron conclut à un ensemble de responsabilités lourdes et accablantes de la France, mais écarte toute complicité dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Nathalie Hernandez, dans un instant, invitée de ce journal, Paul Quilès, qui a présidé la mission d'information parlementaire sur le Rwanda en 1998. Près de 3 millions de doses de vaccin contre le coronavirus attendues dès la semaine prochaine. La campagne de vaccination pour les 70 ans et plus débute aujourd'hui et à l'instant, l'Espagne va exiger un test PCR négatif de moins de 72 heures à la frontière avec la France à partir de mardi. À l'étranger, en Birmanie, la répression meurtrière des manifestations se poursuit. L'armée birmane s'est livrée à une démonstration de force à l'occasion de la journée des forces armées. Dans ce journal également, un bilan du tournoi des pour l'équipe de France de rugby et la prescription culture du week-end avec le nouvel album de Lana Del Rey, La Météo pour cet après-midi et pour demain. Les nuages laissent place aux éclaircies, les températures remontent. Jean-Pierre Hameau à la fin de ce journal. À 13h20, Secret d'info avec au programme aujourd'hui Jacques Monin.
Eh bien, cette étude de l'INSERM qui a montré que 13 Français avaient été contaminés par le virus de la Covid dès novembre et peut-être même en octobre 2019. Nous avons retrouvé certains d'entre eux et vous verrez que leur témoignage pose de nombreuses questions.
Jacques Monin, Secret d'info à 13h20.
France Inter.
C'est donc un rapport cinglant d'historien qui entraîne beaucoup de réactions et qui pointe la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. En avril 1994, une commission d'historiens présidée par Vincent Duclert est chargée d'étudier le rôle de la France au Rwanda entre 1990 et 1994, a donc remis hier au président Emmanuel Macron un rapport de 1200 pages et des dizaines de milliers de documents qui soulignent un ensemble de responsabilités lourdes et accablantes de la France dans le génocide, mais rien, selon les historiens, ne vient démontrer que Paris s'est rendu complice de ce génocide qui a fait, selon l'ONU, je vous le rappelle, au moins 800 000 morts entre avril et juillet 1994. Selon ce rapport, la France est demeurée aveugle à la préparation du génocide des Tutsis au Rwanda, un document qui insiste, Nathalie Hernandez, sur la responsabilité cruciale du président socialiste de l'époque, François Mitterrand.
Au début des années 90, le président français prône une politique de développement en Afrique en échange d'une démocratisation. Le Rwanda va alors servir de laboratoire. D'autant plus que François Mitterrand entretient d'excellentes relations avec son homologue rwandais. Au point, rappelle Vincent Duclert, le président de la commission Rwanda ce matin sur France Inter, de donner au Hutu Juvénal Habyarimana carte blanche et pas pour le meilleur.
Il a vu en Habyarimana quelqu'un qui pouvait peut-être sortir son pays de ces drames. Et la politique de la France, d'ethnicisation, de dire à Habyarimana « vous êtes le leader du peuple majoritaire », a poussé Habyarimana dans les mains des extrémistes. Habyarimana, en fait, a tout reçu de François Mitterrand.
Malgré des alertes sur les risques de dérive, François Mitterrand et son état-major particulier garderont la même ligne politique. Et tous les militaires qui s'opposeront seront évincés, comme le raconte en 2019 le général Jean Varay à Benoît Colombat. Jean Varay est chef de la mission militaire de coopération au Rwanda entre 90 et 93 et il alerte sur le risque de génocide. Il fait même remonter l'information, mais il ne se passe rien.
C'était une connivence entre certains militaires qui étaient pas majoritaires, mais qui étaient à des postes clés et que ce groupe, dont je connaissais certains éléments, faisait pression. L'institution, mais certains militaires à des postes clés ont été trop loin. Parce qu'ils n'ont pas voulu prendre en compte les risques de cette politique de soutien à Habyarimana.
Le général Varay sera écarté de ses fonctions au printemps 93, un an avant que le Rwanda bascule dans la tragédie.
Nathalie Hernandez, merci. Invité de ce journal, Paul Quilès, ancien ministre de la Défense, notamment de François Mitterrand, et président de la mission d'information parlementaire sur le Rwanda en 1998. Bonjour Paul Quilès.
Bonjour.
Alors Hubert Védrine, ancien secrétaire général de l'Élysée, salue ce matin l'honnêteté de ce rapport qui écarte toute complicité de la France dans le génocide des Tutsis. Et Alain Juppé, qui était ministre des Affaires étrangères en 1994, parle d'un rapport qui fait avancer la vérité. Quelle est votre position, Paul Quilès ?
Si la vérité consiste à dire que la France n'a pas été complice du génocide, c'est bien. Ce qui est tragique, c'est que depuis plus de 20 ans, il y a toute une série de gens qui sont plus ou moins influencés par ce que j'appellerais le clan pro-Kagame. Il faudrait en parler un petit peu de ce président du Rwanda actuel.
Oui.
Ne cesse de laisser imaginer que la France a été complice du génocide. C'est insupportable. Et pourtant, il a fallu se battre pendant donc 20 ans pour que ceci soit dit clairement. Par contre, les commentaires qui sont faits, que vous avez repris, et qui vont donner lieu à des titres dans la presse, hein, aveuglés idéologiquement, faillite, responsabilité accablante, ça ne résiste pas toujours à une analyse sérieuse du détail. Mais les détails n'intéressent pas. Et c'est ce que j'ai constaté, moi, quand j'étais président de cette mission d'information, qui a fait un travail extraordinaire pendant un an, un rapport de 1500 pages, 110 heures de travail, auditionné 88 personnes. On a fait le tour du monde qui était concerné par ce drame du génocide des Tutsis. Et on a fait un rapport qui m'a permis d'aller devant la commission de M. Duclert pour en parler. Je ne suis pas sûr qu'il en parle beaucoup. Moi, je n'ai pas pu lire le rapport.
Mais non, parce que la commission, M. Duclert, Paul Quillès, Vincent Duclert, et la commission des Syriens, font remarquer aujourd'hui, dans Le Monde, daté d'aujourd'hui, qu'elle n'a pas eu accès aux archives de votre mission d'information.
Je ne vois pas vraiment pourquoi. Il pouvait. Non, je ne suis pas au courant. Je n'ai pas été saisi, puisque j'ai été devant la commission, j'aurais parlé pendant une heure, et s'ils avaient besoin de certaines choses, il suffisait de les demander. Il y a toujours cette suspicion qu'il y a quelque chose à cacher, et qu'en définitive, l'idée initiale, c'est que la France a une responsabilité accablante dans le génocide des Tutsis.
Et ça, vous le contestez ?
C'est vraiment insupportable.
Vous le contestez, Paul Quillès, la responsabilité lourde et accablante ?
Oui, totalement. Totalement, et ça fait plus de 20 ans, que j'ai eu, comme d'autres, à lutter contre un certain nombre de journalistes, de responsables au niveau français, qui sont, en quelque sorte, je dirais pas complices, mais qui sont les bons, les bons repreneurs des arguments de Kagame. Lequel Kagame a fait quand même réaliser un rapport, le rapport Musio, en 2008, rapport Musio, qui avait comme objectif de prouver la complicité de la France dans le génocide, rien de moins. Donc, quand on va dans les détails de toutes les accusations qui sont faites, on ne va pas le faire ici, on n'a pas le temps, mais on voit que Mitterrand avait un rapport avec le Biarimana qui n'était pas particulièrement amical, lié à ce personnage. Il y avait un rapport avec les pays, les dirigeants africains, avec lui, comme avec beaucoup d'autres pays. Et son objet était de faire respecter ce qu'il avait dit dans le discours de la Baule quelque temps auparavant, à savoir qu'il fallait essayer, dans toute la mesure du possible, de démocratiser ces pays et de faire en sorte que les affrontements puissent être réglés par la négociation. Ce qui a été le cas avec les accords d'Arusha. Et ces accords qui sont exceptionnels ne sont même pas évoqués. J'aimerais bien que de temps en temps, on dise tout ce qui a été prévu à cette époque, hein, de juillet 92 à août 93. Il a été grâce à la France, et Alain Juppé l'a rappelé, grâce à la France, proposé de mettre en place des institutions démocratiques, de créer une seule armée nationale avec des Hutus et des Tutsis, alors que les Tutsis étaient très minoritaires, de créer un véritable gouvernement de transition, d'organiser le départ des troupes françaises qui sont parties à la fin 1993. Et c'est peut-être une erreur. Et de mettre en place une force militaire des Nations Unies qui ont totalement failli dans cette affaire et dont on parle trop rarement.
Paul Quillès, la page n'est pas définitivement tournée. Que faut-il maintenant ? Juger les personnes soupçonnées d'avoir participé ou encouragé le génocide et qui seraient réfugiées en France, notamment ? Faut-il des suites judiciaires maintenant, après ce rapport de la Commission historienne ?
Il y en a déjà qui sont en cours et elles doivent se poursuivre si les faits sont avérés. Pour moi, ça ne souffre aucune hésitation. Par contre, ce qu'il faudrait faire, et ce qui était d'ailleurs dans la lettre du président de la République à Vincent Duclert, c'est clairement préparer la suite. Et la suite, c'est pas de mettre le doigt sur tel ou tel responsable, c'est aussi d'analyser l'histoire, parce que l'histoire des Tutsis et des Hutus au Rwanda, elle commence bien avant. C'était à l'époque de la colonisation belge, jusqu'à 1960.
Merci.
Et c'est là que l'affrontement a véritablement pris corps, et pas en 1993.
Merci Paul Quillès, ancien ministre de la Défense de François Mitterrand et président de la mission d'information parlementaire sur le Rwanda. L'autre actualité aujourd'hui, c'est la lutte contre la progression de l'épidémie de coronavirus avec deux nouvelles étapes. Le début de la vaccination pour toutes les personnes âgées de 70 ans et plus, on va y venir dans un instant. Et également le renforcement des contrôles, notamment en Ile-de-France. 4500 policiers et gendarmes seront déployés tout au long du week-end pour faire respecter les mesures sanitaires et notamment l'interdiction de se rassembler à plus de 6 personnes en plein air, mais aussi pour vérifier la règle de l'éloignement de plus de 10 km, et Jérôme Rejandeau s'est rendu ce matin gare Montparnasse à Paris.
De l'entrée de la gare à la sortie du métro, en passant par les divers halls, nous n'avons croisé qu'une patrouille de 3 policiers au milieu de voyageurs encore assez nombreux.
On contrôle les gens, il y en a qui n'ont pas d'attestation, il y en a qui ont des attestations. Donc ceux qui n'ont pas d'attestation, ça dépend de la distance où ils se déplacent. Bah, s'ils n'ont pas d'attestation, on les verbalise, tout simplement.
Verbalisation à laquelle a échappé Brian, qui voyage avec son jeune fils Noé. Il n'a pas rencontré de force de l'ordre depuis son départ.
Moi, je pars de Soissons, de l'Aisne. J'ai pris 2 trains, le métro, j'ai eu aucun contrôle. J'ai changé de région et je vais jusque Pau même. J'ai une attestation. Après, le motif, c'est vraiment un déplacement, on va dire, vacances.
Qu'est-ce que vous avez coché sur l'attestation là ?
Déplacement professionnel. Mais c'est un confinement, on va dire, pas très respecté ou avec des consignes un peu bizarres parce que on sort comme on veut, quand on veut et autant de temps qu'on veut. Quoi.
Pas de contrôle non plus pour Charles, gros sac sur le dos, mais lui a pris ses précautions pour aller réviser à Brest.
On est en classe prépa, on a les concours qui arrivent dans 2 semaines et du coup on a une dérogation pour partir travailler en petit groupe. On a l'attestation de l'établissement signée par le directeur. On pourra en profiter pour respirer un peu en dehors de Paris. En plus il commence à faire beau donc c'est parfait.
D'autant que contrairement au week-end dernier, les trains ne sont pas complets, l'offre est encore importante. La SNCF ne réduira son trafic TGV qu'à partir de lundi.
Jérôme Jadot, gare Montparnasse, à Paris. Alors que le nombre de malades atteints du coronavirus continue de progresser dans les services de réanimation des hôpitaux, la vaccination des plus de 70 ans débute donc aujourd'hui. Les centres de vaccination, notamment, vont accueillir plus de patients. C'est le cas à Bonneuil-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Pour le maire communiste Denis Oesteroen, c'est une nouvelle étape, mais elle n'est pas suffisante. Il faut ouvrir plus largement la vaccination, Denis Oesteroen, avec Rémi Brancato.
Nous avons une grosse pression des concitoyens qui ont plus de 60 ans aujourd'hui. C'est des gens qui viennent, qui attendent des fois jusqu'à la fermeture du centre pour pouvoir avoir une dose, pour pouvoir se faire vacciner, parce que c'est aussi une population qui vit dans l'anxiété, qui rentre pas dans les critères, mais qui sont aujourd'hui en grande demande. Je réclame de l'État qu'il élargisse le nombre de concitoyens qui puissent venir se faire vacciner. Les plus de 60 ans, c'est un vrai enjeu. Et encore plus que tout, la grande priorité de la nation aujourd'hui, ça doit être les anciens et les travailleurs dans les écoles, parce que nos enfants, les élèves sont en grande souffrance. Aujourd'hui, nous vivons une crise qui est énorme dans toutes les écoles. Il y a un manque incroyable d'enseignants positifs au virus, soit qu'à contact. Il faut vacciner les enseignants, il faut vacciner les travailleurs territoriaux. C'est une partie de la population qui a aujourd'hui besoin de se sentir assurée.
Denis Oesteroen, le maire de Bonneuil-sur-Marne. Et dans le même temps, la pression augmente sur les écoles. De plus en plus de voix chez les scientifiques et les politiques demandent une fermeture totale des établissements scolaires pour freiner l'épidémie. Pour l'instant, dans les 19 départements soumis à de nouvelles mesures de confinement, les écoles fermeront dès le premier cas de coronavirus. Et ce matin, le syndicat d'enseignants SNILPP FSU indique s'attendre à une hausse du nombre de fermetures de classes dans les écoles au cours des prochains jours. Et puis enfin, la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher annonce ce matin que la France attend près de 3 millions de doses de vaccins la semaine prochaine. Et alors que l'Europe ne semble pas tirer d'affaire en raison et face à une nouvelle forme de l'épidémie avec ce variant anglais et d'une campagne de vaccination encore lente, Israël, de son côté, en revanche, est revenu à une vie quasi normale. La fête de Pessah, la Pâque juive, commence ce soir et contrairement à l'an passé où Israël était soumis à un confinement et à un couvre-feu, les Juifs en Israël pourront célébrer Pessah sans restriction, en famille ou avec des amis et là où bon leur semble. Plus de 50% de la population totale a reçu les 2 doses de vaccins, les vaccins Pfizer, et dans le même temps, plus de 80% des personnes âgées de plus de 16 ans ont été vaccinées. Sur place, à Jérusalem, Frédéric Mettezo.
Tous les indicateurs sont encourageants. Le nombre de décès et de cas graves sont en forte baisse. 1,1% des tests reviennent positifs. Le système hospitalier israélien n'est plus en tension. Le carnaval juif de Pourim, il y a un mois, n'a pas eu d'effet négatif. Tout comme le déconfinement, il y a 3 semaines, qui a vu la réouverture des écoles et des restaurants, des salles de sport, des piscines ou des théâtres pour ceux qui présentent leur certificat de vaccination. Depuis un mois, 90% des nouvelles contaminations ont été provoquées par le variant britannique et contre lequel le vaccin Pfizer est efficace. Israël dénombre très peu de variants sud-africains et brésiliens car l'aéroport vient juste de rouvrir. Le pays entre donc dans une nouvelle phase, celle de la gestion des 3000 nouveaux entrants quotidiens, et il prépare la vaccination des moins de 16 ans pour l'automne. 600 d'entre eux souffrant de pathologies lourdes l'ont déjà été sans présenter d'effets secondaires. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
La situation en Birmanie, toujours inquiétante et une répression meurtrière. L'armée birmane s'est livrée aujourd'hui à une démonstration de force à l'occasion de la journée des forces armées avec un gigantesque défilé militaire dans la capitale, Naypyidaw. Au même moment, les manifestations dans le pays sont réprimées. Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
Et au moins 19 personnes ont été tuées, Julie.
Et l'agence Reuters évoque même ce matin 50 morts, dont des enfants. Sur les rares images qui nous parviennent, des hommes, des femmes marchent paisiblement de nuit, une bougie à la main, parfois un casque sur la tête aussi pour se protéger. Mais dans plusieurs villes du pays, l'armée a donc une nouvelle fois tiré sur les civils. Et ce 27 mars, vous l'avez dit, ce n'est pas n'importe quel jour. En parallèle, l'armée commémore le début de la résistance birmane à l'occupation japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la junte en a profité pour montrer sa force ce matin. Défilés militaires, soldats par milliers, chars, missiles, avions, rassemblés sur une immense esplanade dans la capitale du pays, en présence d'ailleurs de délégations russes et chinoises. 2 mois après le coup d'État, le numéro 1 de l'armée a dénoncé au micro les manifestations, des actes de terrorisme inacceptables. Hier déjà, la télévision d'État diffusait un message à destination des jeunes. Apprenez la leçon de ceux qui sont morts après avoir été touchés à la tête et dans le dos. Ne mourrez pas en vain. En fin de matinée, l'Union européenne et la Grande-Bretagne ont condamné les meurtres commis encore aujourd'hui. Pour l'ambassadeur de l'Union européenne à Rangoon, cette journée restera gravée comme un jour de terreur et de déshonneur. Les meurtres de civils non armés, dont des enfants, sont des actes indéfendables.
Julie Pietri, merci. L'objectif fixé pour l'équipe de France de rugby dans le tournoi des Six Nations était de marquer 4 essais et de l'emporter avec 21 points d'avance pour gagner le tournoi. Mais on avait un peu trop vite oublié les Écossais hier soir au Stade de France. Résultat, défaite de l'équipe de France 23-27 qui termine deuxième de la compétition. La jeune équipe de France, en pleine croissance et prometteuse, a laissé échapper la rencontre après la sirène. Elle termine deuxième, comme l'an dernier, Vincent Pellegrini.
Le classement final est le même, deuxième, mais pas le bilan comptable. L'an dernier, les Bleus avaient perdu un seul match. Cette année, ils se sont inclinés à 2 reprises face à l'Angleterre et l'Écosse. Globalement, les joueurs de Fabien Galthié ont été assez friables défensivement, plus que l'an passé. Hier soir, les Écossais ont marqué 3 essais, comme les Gallois il y a une semaine. Si les Bleus ont manqué de constance dans ce domaine, ils ont aussi parfois pêché dans le secteur offensif. Bien sûr, ils ont inscrit dans cette édition de superbes essais, à l'image de celui de Damien Penaud hier, mais ils ont aussi à plusieurs reprises gâché des occasions par manque de maîtrise ou par précipitation. Ce tournoi laisse des regrets, mais ce groupe bâti il y a un an par Fabien Galthié est jeune et perfectible. Le potentiel est là, même s'il a été moins performant en fin de tournoi. Antoine Dupont est un phénomène. 2 jeunes joueurs émergent. Des leaders, Charles Olivon, Gaël Ficou, s'affirment. Il y a de bonnes raisons de croire en l'avenir de cette équipe qui, à défaut de gagner le tournoi, a su reconquérir un public.
Vincent Pellegrini, effectivement près de 8 millions de téléspectateurs hier soir pour suivre cette rencontre du tournoi des Six Nations. Un record depuis 2010 et le dernier grand chelem français. La prescription culture de ce week-end avec le retour de la chanteuse américaine Lana Del Rey. Lana Del Rey vient de sortir un nouvel album, Chemtrails Over the Country Club, un 7e disque entre pop et country, toujours aussi aérien et inspiré, Mathieu Culeron, par les grands espaces américains.
Take out your turquoise and all of your jewels.
Lana Del Rey continue d'écrire son histoire musicale des États-Unis avec passion et détermination. Après avoir décrit avec cynisme une Californie fantasmée, la chanteuse nous invite désormais à un road trip au cœur de l'Amérique profonde, de l'Arkansas au Nebraska, en passant par le parc de Yosemite.
Seasons may change, but we won't change.
Dans ces grands espaces, Lana Del Rey trimballe sa langueur cigarette au bec à la recherche d'un amour absolu, si possible ravageur. It's dark but just a game, so play it like a symphony. Ce septième album est plus brut, dépouillé d'une production XXL. La musicienne ose tout avec assurance, y compris lorsqu'elle reprend du Joni Mitchell. I slept last night in a good hotel. Avec ce dernier disque, Lana Del Rey s'inscrit dans une longue tradition de chroniqueuse de l'esprit américain. Elle aura trouvé un style, une direction et fait désormais partie des grands songwriters de ce début de siècle.
Mathieu Culeron, le septième album de Lana Del Rey qui vient de sortir. Le temps pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Jean-Pierre Hameau.
Cet après-midi, prévoyez un ciel partagé entre courtes éclaircies et cumulus bourgeonnant, porteur de quelques averses sur une bonne moitié nord du pays. Les éclaircies seront plus larges dans le sud-ouest, excepté vers le piémont pyrénéen, où les nuages bas auront bien du mal à se dissiper. En revanche, l'ensoleillement sera généreux du relief pyrénéen au Languedoc-Roussillon, de l'Auvergne à la région Rhône-Alpes et de la région PACA à la Corse. Mistral et Tramontane soufflent entre 40 et 50 km par heure. Les températures maximales cet après-midi seront un peu justes dans la moitié nord, n'attendant pas plus de 10 degrés à Metz, 11 à Cherbourg, Lille et Besançon, on attend à peine 12 degrés dans la capitale, 13 à Orléans et Tours, ça sera tout de même un peu plus doux dans le sud-ouest, avec 15 à Toulouse et 16 à Bordeaux, et puis en vous rapprochant de la Grande Bleue, les maximales évolueront entre 17 et 20 degrés, 20 degrés prévus à Toulon.
Jean-Pierre Hameau de Météo France.